Bonjour Usul, bonjour Mathilde Larère et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Solway et Coagula.
Magic is political, magic is social, magic is cultural, magic is pretty much everything. This is the alchemical formula of Solway et Coagula.
Aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, nous avons eu le bonheur de croiser Mathilde Larère et Usul dans les couloirs de l'ENS de Lyon. Fidèles à nous-mêmes, nous les avons donc alpagués et traînés au studio de Transistor pour un petit entretien exclusif avec ces deux figures de la gauche sur Internet. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de vous présenter à notre auditorat essentiellement composé d'islamo-gauchistes, mais il faut bien sacrifier à l'exercice académique de l'introduction, on est à l'ENS, hein, ne l'oublions pas. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement l'une et l'autre ?
Ah, ça c'est le truc de feignant, du journaliste qui n'a pas envie de le faire lui-même. Je connais, ben, moi je suis Usul, vidéaste sur internet depuis, je m'occupe de politique depuis maintenant 4-5 ans principalement, et je travaille pour Mediapart maintenant, donc des petites pastilles, des petites émissions sur YouTube, plutôt à gauche, ouais.
Donc moi je suis Mathilde Larère, je suis historienne, je suis enseignante chercheuse à Marne-la-Vallée, et je fais aussi de la vidéo un peu sur Mediapart, Arrêt sur Image, et beaucoup d'interventions sur Twitter parce que ça m'amuse.
Oui, d'ailleurs, ma première question est pour toi, Mathilde. Une question que j'ai toujours voulu te poser, c'est qu'est-ce que ça fait de Recht Raphaël-Enthoven sur Twitter ?
Ça fait du bien.
Non, c'est vrai. Enfin, sur le coup, j'étais tellement de mauvaise humeur que j'ai pas trop réfléchi et que juste, comme il avait ouvert une porte dans laquelle je pouvais carrément enfoncer plus qu'un pied et lui défoncer la gueule, c'était agréable. Après, c'est pas, mon objectif n'est pas ça. C'est juste que là, vraiment, ça m'avait énervé et c'était complètement impulsif. Mais c'était pas désagréable.
Oui, parce que finalement, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'était cette idée d'Internet comme peut-être un nouveau terrain militant, un nouvel espace de lutte peut-être. Et tous les deux, vous représentez d'une certaine manière cette forme de mobilisation. Enfin, comme je disais en introduction, vous êtes un peu des figures de la gauchosphère, si tant est qu'elle existe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui existe et qu'on pourrait appeler la gauchosphère et à laquelle vous appartiendrez ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une fachosphère et qu'on l'a laissé prospérer parce que justement la gauche ne voulait pas être présente pour des raisons diverses sur ces espaces et qu'en fait on en saisit le danger, la menace et l'efficacité et que donc il faut absolument créer une gauchosphère. C'est une question de bataille culturelle et de bataille évidente. Quoi.
Ça tient à des raisons historiques précises. Hein. C'est vrai que l'extrême droite était en avance parce qu'ils avaient l'impression que la télé, même s'ils les invitaient dans des dispositifs où ils étaient mis en danger, etc., critiqués en permanence, donc ils avaient l'impression que les médias étaient contre eux. Donc ça a été parmi les premiers à investir complètement le net en se disant « là, on a notre espace de liberté, on va pouvoir... » Ils avaient même fait avec le Minitel à l'époque avant. Donc, et nous, on est arrivé un peu à la bourre. Je pense que ça tient aussi à la sociologie particulière des milieux de gauche. Il y avait des réticences en effet dans le champ universitaire parce que ça fait pas sérieux. Ouais. C'est vrai pour YouTube, mais par exemple là j'étais cet été aux universités d'été d'Attaque. Il me racontait, alors plus l'année d'avant, il me le racontait encore plus à quel point chez les vieux militants, il y avait quand même ça avait du mal à passer l'idée que ça puisse être sérieux d'aller, enfin qu'il fallait absolument investir Facebook, qu'il fallait investir des vidéos virales machin. Et l'idée commence à faire son chemin, mais il y avait des conservatismes. Qui tenait aussi à des traditions militantes.
Mais donc on a un retard à rattraper, ouais.
Mais maintenant je pense
doucement.
Qu'il y a une gauche
aussi. Ouais, maintenant on rattrape.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on vous sollicite beaucoup pour sur Twitter, même pour des réactions, des choses comme ça. Enfin, dès qu'il se passe un truc, il y a toute tout un tas de gens qui vont vous demander de, votre avis, tout simplement.
Même s'ils ne nous demandent pas.
Non, moi, voilà. Moi, on ne demande pas. Demander l'avis, par exemple, Rokhaya Diallo, on lui arrive tout le temps. Il suffit qu'il y ait le moindre truc pour qu'on lui demande. Et qu'est-ce que vous pensez de... Elle n'en peut plus. C'est... À un moment, on avait même fait un truc viral, mais pour rigoler. L'extinction des dinosaures, Rokhaya Diallo, qu'en pensez-vous? Donc non, moi, on ne me demande pas. Mais c'est vrai que je le fais. Ça a un côté assez vertigineux. Des fois, on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on est en train de parler à pas mal de personnes au bout du compte. Des fois, moi, j'ai tendance à confondre le SMS à mes copines et le tweet, ce qui n'est pas toujours la meilleure idée du monde. Mais en même temps, moi, je pense qu'il faut le faire. De fait, on ne peut pas laisser cet espace à nos ennemis.
Oui, parce que ça implique une forme de, comme tu disais, de responsabilité peut-être, c'est-à-dire entre le SMS et le tweet. Et du coup, on se demandait comment vous construisez une forme d'éthos numérique, une espèce de personnalité en ligne, comment vous gérez votre parole, comment vous intervenez dans des dramas ou pas. Parce que vous ne pouvez pas répondre à tout, vous ne pouvez pas...
Non, mais selon notre sensibilité, selon les sujets sur lesquels on se trouve... pertinent, ou même, moi, il y a aussi une question que je me pose à chaque fois que je fais une vidéo, qu'est-ce que je peux dire qui soit un ajout, qui soit un apport quand même, même sur des sujets qui ont l'air un peu bateaux, etc., qu'est-ce que je peux rajouter, ou alors même s'il n'y a pas spécialement d'invention, ça arrive que des fois il y a un peu d'invention, je me dis tiens ça c'est un peu futé, on l'a pas encore trop dit, je vais essayer de le dire, mais la plupart du temps c'est aussi merde, occupons le terrain en rappelant même des choses, il n'y a pas de mal à rappeler des choses. En tout cas, oui, faut être là et faut pas se jeter sur toutes les batailles. J'avoue, Raphaël Antoven, j'ai lâché l'affaire, moi. On sait qu'il nous déteste l'un et l'autre, il nous connaît, il nous aime pas. Très bien, mais bon, on s'épuise parfois. Faut choisir ses batailles. On peut pas les mener toutes et parfois on s'épuise. Donc, faut se préserver. C'est dangereux.
Il faut se préserver. Ça, c'est sûr. Moi, c'est un peu pareil. J'interviens quand je pense que je peux apporter quelque chose. Après, il y a des choses très différentes quand je fais des fils sur Twitter. Là, je les travaille à mort. Enfin, c'est pas du tout du spontané. Il y a des heures de boulot derrière pour établir le truc. Après, je passe en, même si ça semble léger parce qu'il y a du gif et de l'emoji. En fait, c'est vachement bossé. Après, des fois, c'est la réaction instinctive. Et alors là, ça m'arrive d'écrire un truc, me dire non, là, je suis en train de faire une connerie et je l'envoie pas.
Ah, ou... J'ai un tweet sur 4, moi, c'est ça. Je l'écris.
Et puis je dis non.
Est-ce bien nécessaire ?
Ouais, c'est ça, c'est pas nécessaire. Après, il y a aussi des règles. Jamais tweeter quand on est saoul. Surtout pas.
Oui, c'est vrai.
Arrêter après un certain niveau d'alcool dans le sang, parce c'est que vrai, là, c'est là, c'est là qu'on fait des conneries. Et puis des fois on fait des conneries, et on supprime et deux on s'excuse. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à faire. Moi ça m'est, là j'ai pas d'idée tout de suite en tête, mais ça m'est arrivé ou alors par exemple de retweeter quelque chose, j'avais trouvé que c'était intéressant et puis quelqu'un m'envoyait un message en disant mais non en fait c'est une vidéo, c'est pas en France, c'est en Espagne, donc voilà, j'avais contribué à diffuser une fake news parce que j'avais pas fait gaffe, parce qu'il y a un tel flux qu'on fait pas toujours attention. Je pense que là, la moindre des choses, c'est évidemment, on retire le truc. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, voilà, là, j'ai fait une bêtise parce que c'est très rapide. Donc on a le droit à l'erreur à condition de le reconnaître. C'est surtout dans les retweets, moi, que je fais des conneries. Parce que je vois passer des choses et je me rends pas compte en les retweetant qu'en fait, c'est une connerie.
Moi, c'est parfois dans les vidéos aussi, tu vois, que je dis des conneries.
Ça nous arrive tous,
Fatalement, ouais. Mais bon, c'est aussi une pensée. C'est là où c'est aussi un exercice assez impudique, parce que on montre notre pensée se faisant, avec ses hésitations, avec ses impasses, avec ses soubresauts,
avec ses coups de gueule.
Voilà. Donc oui, c'est quand même une mise en danger. D'ailleurs, on le paye régulièrement.
Ouais. Oui. Vous avez un exemple de tweet ou d'intervention publique que vous avez regretté plus que les autres, qui vous a plus
Ah, moi, il y a des émissions de moi que je ne peux pas revoir parce que je me dis non, c'est con, ou alors c'est maladroit. Il y a des émissions que je ne peux plus revoir. J'assume plus, quoi. Mais je les laisse en ligne, moi, je ne supprime pas. Et si on me demande, je dis ouais, celle-là, c'est vrai qu'elle était pourrie. Mais je ne vais pas supprimer. Je laisse les hésitations, y compris quand c'est des vidéos.
Ouais, non, moi des fois ça m'arrive de faire des erreurs et je les corrige par le tweet suivant, soit je les, quand j'ai fait une connerie, je le supprime. Ou des fois, ouais, je me dis oh là là, ça c'était pas malin. Donc, mais dans ce cas-là, je supprime très vite.
Parce que tu disais que oui, pour les threads, tu prenais le temps de vraiment écrire chose solide et tout. Et du coup, pour toi, peut-être que le militantisme sur Internet, ça passerait par une forme d'éducation populaire.
Alors ça, c'est clair. En fait, ce qui complique, mais c'est parce que ça s'est construit comme ça, c'est que je mélange sur le même compte Twitter... Il y a des éléments politiques, de réaction immédiate, voire des conneries. Enfin, ça m'arrive de retweeter des vidéos de chatons parce que je les trouve mignonnes. Enfin, c'est... Et le côté plus éducation populaire, etc. Au début, ça ne posait pas de problème parce que de toute façon, je n'avais pas beaucoup de personnes qui me suivaient, donc je m'en foutais. Maintenant qu'il y a vachement de monde, alors ça a pour effet que tous les trucs plus perso, je ne le fais plus. Je m'auto-contrôle plus que je le faisais au début. D'autant que, par exemple, j'ai des copines aussi sur Twitter, et des fois, on échangeait, par exemple, Laurence de Coq, on pouvait s'envoyer sur Twitter, mais parce qu'on avait un peu confondu, et t'arrives à quelle heure ce soir au café ? Sauf que là, maintenant, il y a 30 000 personnes qui voient que le soir, on a rendez-vous au café. Donc, c'est un peu chiant, quand même, comme situation. Et ça, il a fallu qu'on l'intègre. Donc, ça a enlevé un usage léger que j'avais de Twitter, que maintenant j'ai plus parce que justement j'ai pas du tout envie qu'on ait accès à ma vie privée, ça intéresse personne en dehors de moi et mes potes. C'est surtout
il y a les
là-dessus.
DM, hein. Il y a les DM.
Oui, mais privé, non, mais surtout après il y a les SM, enfin effectivement d'autres moyens de se joindre. Mais sinon oui, pour moi Twitter est un espace d'éducation populaire, c'est comme ça que je l'utilise d'abord et avant tout. Mais ça implique du travail au préalable. Quand je fais un fil d'histoire ou même quand j'interviens en mobilisant l'histoire sur des trucs d'actualité ou des prises de parole politiques. Ça, je les ai pesés avant et je les ai pesés pas sur Twitter, sur Word. Enfin, j'ai travaillé mon truc avant.
Parce que toi, au moment où tu as percé sur Twitter, comme on dit dans le jargon, c'était avec justement un thread sur l'histoire ou quelque chose comme ça.
Ouais,
ou
alors
c'était
en fait, c'est Valls qui avait sorti Marianne, elle nourrit la France, elle a la tête découverte. Et moi, j'étais en train de regarder une série dans mon plumard. Je regarde sur Twitter, je voyais que ça réagissait. Je m'énerve, je fais un truc d'énervement. Je dis, mais non, elle a le sein nu parce que c'est une allégorie, hashtag crétin. Et je vais regarder ma série. Et je me dis, et là, je me suis dit, merde, en fait, j'ai pas expliqué l'allégorie. Enfin, j'ai eu un réflexe de prof, oui. Genre, je ne peux pas faire tellement d'implicite. J'y retourne. Et là, j'avais juste avant fait un cours sur Marianne. Donc, je fais une histoire de Marianne, les deux Marianne, la Marianne radicale. Donc, je fais mon cours d'histoire. Et puis après, je vais me coucher pour toujours regarder cette sacrée série. Et là, c'était drôle parce que je voyais mon téléphone, j'avais des vibrations quand c'était une notification Twitter. Avant, j'en avais une tous les 10 minutes, tu vois. Donc... Et là, je voyais bip, bip, bip. J'avais l'impression que c'était devenu un petit poids sauteur. Et là, je me suis dit, oh putain, il se passe un truc. Et j'ai commencé à regarder et je voyais que ça... Et c'est... en fait, c'est un côté très angoissant parce que tu fais ton machin. Et ça m'arrive encore maintenant. Tu fais juste ton truc, tu penses que... Bon, voilà, en général, il y a 50 personnes qui... Et là, d'un seul coup, c'est 3000, 4000 personnes, et t'as le machin qui... Et ça, c'est assez vertigineux.
Mmh. Des fois, je lâche des trucs, ou même je publie une vidéo et je me barre, et je regarde pas la suite. Ouais. Parce que sinon, t'as pas fini, et puis même c'est angoissant, tu te manges quand même aussi...
Surtout, oui.
Ton petit lot d'insultes et de machins, bon, t'es pas toujours prêt, t'es pas toujours dans les bonnes dispositions, t'es pas toujours bien dormi. Donc, ouais, moi, souvent, je lâche des trucs et je me casse. C'est une manière de se protéger aussi.
Oui, c'est une manière de se protéger.
En continuant d'intervenir, mais...
Après, c'est aussi le lieu où il y a des paroles qui peuvent se confronter d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression que peut-être Twitter, c'est un espace où des gens qui habituellement ont l'oreille des médias, ont l'oreille du système médiatique dominant, se retrouvent sur le même pied d'égalité avec des personnes qui sont peut-être plus légitimes même à leur répondre, des profs, mais qui n'ont pas forcément les médias. Et est-ce que, du coup... quelle est la valeur politique d'un échange même véhément qu'on peut avoir sur Twitter ?
Il y a pas, je pense, la sociologie de Twitter. Bon, on la connaît aussi. C'est pas nécessairement, c'est pas celle de Facebook, quoi. On est quand même, il y a quand même un entre-soi où tous les journalistes suivent tous les journalistes, tous les politiques suivent tous les journalistes et tous les politiques, et les journalistes suivent les politiques. Et puis il y a les chercheurs aussi, quelques-uns, voilà, qui sont là. Certains, ce sont pas si nombreux que ça, mais certains sont très actifs. Machin. Et puis les YouTubeurs qui sont fatalement là. Moi, j'ai déjà pensé, hein, ça m'emmerde des fois Twitter. J'ai déjà pensé à arrêter Twitter, mais je peux pas parce que, comme tous mes autres collègues, en fait, faut faire la promo de nos vidéos, faut occuper le terrain, on est obligé d'y rester. Et voilà, et donc, mais en fait, du coup, c'est un milieu quand même très particulier. Il n'y a pas ta mère, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ta mère, elle est sur Facebook. Donc, on sait qu'on parle, mais on sait qu'on parle quand même à une frange particulière de gens qui sont déjà beaucoup, beaucoup de professionnels de la parole, en fait. de gens qui ont quand même une facilité, une aisance, qui sont là aussi pour réseauter. Donc c'est un réseau particulier. Et je sais qu'il y a des gens qui ont essayé Twitter et qui ne s'y retrouvent pas parce qu'il a cette fonction-là. Socialement, il veut dire ça et il sert à ça. Donc après, c'est pas si grand public que ça, Twitter.
Ouais. Ah oui. Non, des fois, il y a des vraies discussions. Ça m'arrive de discuter et des gens qui vont d'ailleurs faire soit me faire évoluer dans la façon de voir les choses, soit je les fais évoluer. Après, ce qui est insupportable, c'est quand on est dans le registre de l'accusation, de l'insulte. Dans ces cas-là, moi, je bloque ou je masque. L'avantage de masquer, c'est qu'ils ne savent pas. Donc, comme ça, en plus, il n'y a pas le côté « elle m'a masqué, elle m'a censuré, elle m'a bloqué ». Donc, moi, je masque. Après, souvent, parce qu'on sait, il ne faut pas nourrir le troll. Donc,
ouais. Puis Twitter n'est pas fait pour discuter. Twitter, il est fait à la limite pour s'affronter, mais pas pour discuter.
Non, mais ça permet d'envoyer des références. Moi, ça m'arrive souvent, quelqu'un me dit « vous avez dit ça hein », et je renvoie la référence à l'article que je n'ai pas pu citer. Je dis « bah oui, mais là, c'est là-dedans ». Ça permet de donner de la biblio, ça permet... Et puis, si, au bout d'un moment, c'est vrai que les 280 signes font qu'on ne peut pas aller très loin, mais...
Après, il y a quelque chose, tu disais que Twitter, c'est pas forcément grand public, ça peut l'être, mais qu'il y a un phénomène aussi quand même très de chambre à écho. Par exemple, le nombre de personnes qui, maintenant, sont persuadées de l'existence des féministes aux cheveux bleus. Parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'ils ont, ils voient ça dans leur univers Twitter en permanence de cette dénonciation. C'est un peu le même effet de loop qu'il y a pu avoir. Est-ce que s'il n'y a pas aussi cet effet de loop où ils ont l'impression quand même que tu es le summum de la gauchiasserie, que tu es la décadence du pays? Enfin, je vous le dis à tous les deux, alors que concrètement, si on faisait une anatomie réelle du pays, ce ne serait pas si important que ça. Donc est-ce qu'au contraire, il n'y a pas quelque chose dans Twitter de très grand public?
C'est un miroir déformant, oui.
Mais des bulles, en fait, un très grand nombre de bulles, peut-être, non? C'était une question.
Oui, puis vu que c'est un lieu de conflit, on a tendance aussi à radicaliser nos positions.
À être plus désagréable qu'on le serait en général.
Je pense que c'est même une mauvaise façon de découvrir quelqu'un, à regarder son compte Twitter.
Mais c'est pour ça, quand on étudie les mouvements sociaux, justement, est-ce qu'à l'ère d'Internet, ça change pas quelque chose, cette radicalité du point de vue et ces espèces d'espaces d'affrontement un peu étranges, hétérotopiques, qui forcent quand même à avoir un avis, à produire du discours sur eux, puisque c'est quand même des espaces où se dénouent des conflits, etc. Est-ce que ça change pas la manière d'aborder l'histoire des mouvements sociaux? Enfin, si d'un coup...
ça change pas... La façon dont on aborde des mouvements qui ont lieu avant Twitter, on les aborde en sachant qu'il y a pas... Ça change pas la façon de faire l'histoire. Après, ça a nécessairement des incidences sur les mouvements sociaux. Ça, c'est une autre question.
Mais je veux dire, la valeur de l'archive, du document, enfin, est-ce qu'un tweet, du coup, peut être considéré comme un document historique aujourd'hui, quand on fait l'histoire de... Si d'un coup, les historiens...
Plus tard, évidemment qu'il faut... Enfin, j'imagine que les historiens, dans 100 ans, quand ils feront le mouvement des Gilets jaunes, s'ils ne prennent pas ce qui a été produit sur Facebook, ils passeront à côté du mouvement, ils n'y comprendront rien. Donc,
mais de même que... Ça va poser des questions d'archives,
oui,
ça va poser...
Mais de même que... Mais la difficulté, c'est quand on fait l'histoire des mouvements sociaux au 19e siècle, ce qui serait un équivalent très lointain, évidemment, ça n'a rien à voir, je dis équivalent au sens le plus... ça éloigné possible, mais on ne sait pas ce qui se disait sur les places de marché, ce qui se disait au lavoir entre les femmes.
Les tags.
Alors ça, l'avantage, c'est que comme la police était obligée de les prendre en note à partir des années 1850, on les a. C'est pour ça qu'on peut bosser sur les graffitis. Mais les graffitis de la Révolution, on a du mal parce que justement, comme ils n'étaient pas poursuivis pour leur contenu, là, ils n'étaient pas reproduits par la police. Mais si on peut travailler sur les tags à partir des années 50 du 19e, c'est parce que là, on n'a plus le droit de faire des écrits séditieux et donc dans les archives de la police, ils sont tous écrits, c'est un vrai bonheur. Et là, on a des sources, mais il y a des paroles. Alors, coup de bol, on est quand même une société de surveillance et ça s'est bien développé avec le Premier Empire et Fouché. Et donc, dans les archives de la police, on sait ce qui se disait. Par exemple, les salles d'attente des médecins, la plupart des magasins, c'était pas les Twitter, évidemment, mais c'était des espaces où, de fait, les gens aussi pouvaient très bien se mettre sur la gueule alors que c'était des caisses de résonance et de conflictualité. La difficulté, c'est comment on y a accès. Donc, de même que les tweets, il y en a qui vont disparaître. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont archivés, donc dans quelle mesure ils pourront servir de source pour les historiens du futur. Mais il y a plein de choses que l'on perd dans ces paroles et ces échanges et ces formes de mobilisation dans le passé. On arrive quand même à en trouver quelques-unes, je vous dis, essentiellement dans les sources de la surveillance et de la police.
Après, ça pose aussi la question du discours dominant. Parce que quand même, sur Internet, il y a quelque chose d'intéressant. On parle de fachosphère, là on parle de gauchosphère. C'est intéressant de voir que sur Internet, et par exemple sur YouTube, il y a très peu de discours, entre guillemets, modérés. Il y a très peu de vidéos modérées.
Il y a une prime à la radicalité. Oui.
Ouais. Il y a une prime à la radicalité, mais surtout, ça pose la question de est-ce que ça permet pas, bah, en plus en sortant de l'histoire, de la conférence sur l'histoire populaire, est-ce que ça ne permet pas de voir en Internet peut-être un médium qui dépasse les médiums de classe, parce que tout le monde n'a pas accès à la télévision, tout le monde n'a pas accès à la radio. Est-ce que ça pose pas une...
Il y a aussi, j'avais lu un article il y a pas longtemps sur les usages populaires de Facebook. C'est-à-dire que Internet, ça veut rien dire. Il y a des réseaux, il y a des plateformes, il y a des structures, et chacun va avoir d'ailleurs son usage. On a parlé là spécifiquement de Twitter, Facebook a d'autres applications et d'autres usages, et les gens en plus en font d'autres usages. Et donc voilà, c'est Internet. Ça dépend, voilà. La question, c'est quelles vont être les applications qui vont changer notre manière de communiquer, les plateformes. Moi, par exemple, je considère YouTube comme un réseau social sur lequel, parce que en fait, ça a aussi ces fonctions-là. Même les créateurs de vidéos, en fait, se répondent, s'abonnent ou pas les uns aux autres. Il y a des vidéos qui sont faites uniquement pour commenter d'autres vidéos. Ça crée aussi ses propres usages et ça a créé, par exemple, ça a facilité YouTube et Facebook. Ont facilité le rapport à la vidéo qu'on retrouve maintenant chez les Gilets jaunes. Quand arrive le live, voilà, le live, c'était Rémi Buzyn à l'époque qui faisait des périscopes. Maintenant, tout le monde fait des live Facebook. Donc Periscope a inventé un espèce d'usage qui est maintenant, c'est largement démocratisé. Ils avaient retrouvé central dans le truc parce qu'ils répondaient à la crise des modèles de télé dominants comme voilà BFM TV, etc. Les gens avaient l'impression que non, avec du brut, avec un format brut où il y a pas de commentaires, où on voit juste ça, c'est de la vraie information. Et c'était possible parce qu'il y a eu alors des inventions technologiques, mais voilà, dire Internet déjà, bon, c'est déjà voilà, faut être un peu plus précis. Chaque truc va vraiment avoir son usage. Il y a des trucs qui se prêtent à la subversion intelligente, il y a des trucs qui se prêtent à la prise de bec stérile.
Oui, et par ailleurs, enfin, tout ça n'a pas beaucoup d'impact, enfin, n'a rien à voir avec l'impact que peut avoir le journal du 20h ou ce qu'il y a sur TF1, France 2. Ça reste malgré tout le média populaire et qui est le plus vu, ça reste encore la télé. Hein. Faut pas enterrer la télé. Hein. Dans la dernière présidentielle, le truc qui a marqué, c'est le débat à la télé.
Même si de plus en plus, ils intègrent un bandeau où ils lisent les tweets. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que les journalistes ont choisi de montrer des tweets. Ils n'ont pas intégré Facebook parce que leur sociologie fait que eux, ils ont un rapport plus privilégié à Twitter qui leur paraît, qui est leur réseau social aussi à eux.
En tout cas, on continuera à suivre vos prises de bec respectives sur les divers réseaux sociaux.
On ne fait pas que ça.
Et puis les threads et puis tout ce que vous faites comme contenu. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci aux membres du séminaire Relire les sciences sociales. Merci à Félix à la régie. Et à bientôt pour un nouvel épisode.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.